Bonjour à tous. Donc on va un peu changer le mode d'action aujourd'hui puisque je vais vous présenter Jean-François et moi je ferai ma séance normalement prévue tout à l'heure à 11h. Alors Jean-François Toussaint, c'est un ami d'assez longue date. En fait, on s'est croisés la première fois, c'était à l'Académie des sciences. Il était venu m'écouter, je faisais une conférence sur le rôle de l'eau dans les systèmes biologiques. Et puis c'est comme ça, vous rencontrez quelqu'un et puis ça prend. Puis après, chacun joue un rôle important sur la vie de l'autre. On ne s'est pas beaucoup quitté depuis. Et on a organisé un colloque au muséum, c'était les 29 et 30 octobre 2010, qui s'appelait « L'homme peut-il s'adapter à lui-même ?» Tome 1, et on vous proposera dans quelques semaines, quelques mois, ici, dans la même salle, les 22 et 23 mai prochains, la suite de ce colloque. Alors, le premier était lié effectivement à des questions qu'on se pose en permanence, très liées au cours que j'ai ici, mais vous allez voir, Jean-François sort largement de la seule biodiversité, en incluant, bien sûr, il est médecin, hein, ce qu'est l'humain là-dedans. Et on avait réuni un très joli casting à l'époque. Il y avait Jacques Delors qui était venu, il y avait Albert Fert, le prix Nobel de physique, il y avait Cédric Villani, l'âme et la fille de mathématiques, tout un groupe d'amis, dont une grande partie va d'ailleurs revenir devant vous ici au collège en mai. Donc Jean-François est médecin, il est professeur de physiologie à l'Hôtel Dieu, c'est un cardiologue. Et c'est un de ces médecins qui s'intéresse à autre chose que le seul fait de regarder les homo sapiens quand ils sont malades, il en sort largement. Et on a une réflexion assez approfondie depuis pas mal de temps. Et c'est vrai que chacun apportant un peu sa pierre à l'édifice, en se soutenant mutuellement, on arrive à des choses assez intéressantes. Donc ce livre qui est sorti donc en novembre 2012, qui est le livre qui était issu du premier colloque de 2010, et un article récemment dans la revue Futurible que nous avons aussi commis en commun avec des étudiants de Jean-François. Donc il va vous parler un petit peu aujourd'hui. J'aurais pu garder ce séminaire pour la dernière session, la dernière séance. Bon, vous savez, les calendriers font que ce n'est pas toujours facile de faire comme on veut faire. Donc il va vous montrer un petit peu, il va vous expliquer lui-même quelles sont aujourd'hui les limites de développement qu'on peut pressentir dans un contexte en plus, et ça on en parlera beaucoup à la dernière séance que je ferai avec vous au début du mois de mars, d'humains qui n'acceptent pas la situation. Alors en fait, je vous disais, on a deux types de réactions, soit le déni, on dit, bon non, ce que vous racontez, c'est pas vrai. Hein, l'humain, il va très bien, la planète va très bien, et tout se passe pour le mieux. De toute façon, il s'en est toujours sorti, et donc il sortira encore. Bon, ça marche quand on est 20, quand on est 7 milliards, j'en suis pas convaincu, et quand on sera 9 milliards demain, encore moins. Et le deuxième aspect, c'est la triche, à vous en parler. Travailler sur ces aspects particuliers-là. On peut tricher. Effectivement, on peut tricher, soit en falsifiant des choses, soit en augmentant ses propres capacités. Et le dopage chez les sportifs est un très joli élément. Je termine là-dessus. Quand Armstrong, récemment, ce coureur cycliste américain qui a gagné 7 Tours de France, qui est tombé pour dopage, évidemment, disait récemment, on ne peut pas gagner le Tour de France sans se doper. Diantre. Si aucun ne prend quelque chose, il y aurait bien un vainqueur. Hein. Donc le débat est vraiment lancé sur ces questions-là. Voilà, je passe la parole à Jean-François. Merci en tout cas d'être venu avec nous.
Merci Gilles, je pense que ça devrait aller sur celui-ci. Tout d'abord, je voudrais te remercier pour ton invitation, pour effectivement vous apporter un certain nombre de ces données depuis 5 ans qu'on travaille dessus. Et puis également de remercier Serge Haroche et tous les membres du collège pour leur invitation dans un cadre aussi prestigieux et où les leçons, les mots de la dernière leçon de d'Yves Coppens résonnent encore à mes oreilles, et ça a été un des points sur lesquels l'humanité, le développement, l'adaptation, le climat, tout y était déjà. Ça reste une très grande leçon à la fois de modestie, compte tenu de l'immense carrière d'Yves, et puis surtout sur la façon dont il savait replacer la responsabilité humaine dans le cadre de cette liberté acquise par son développement, par sa technologie. Un homme de plus en plus libre, mais toujours responsable, y compris de sa propre liberté. C'est vraiment un des points sur lesquels on a mis l'accent. Alors, par rapport à ça, on s'est quitté effectivement il y a presque 4 ans au muséum avec cette idée que les contraintes finalement ne cessent de croître, alors que dans le même temps, notre potentiel d'optimisation semble arriver à un certain nombre de plafonds. Et donc le résultat reste ténu et en tout cas ouvert sur l'avenir. Et c'est par rapport à cela que les progressions qu'on a pu avoir dans ces 4 dernières années, notamment avec l'équipe de l'IRMES, vont nous amener à finalement peut-être répondre à ce que Claude Lévi-Strauss appelait ici sur notre difficulté d'équipement par rapport à tous ces problèmes, par rapport à toutes ces contraintes. Donc on va aborder aujourd'hui la question de l'expansion, la question des limites, la question des optima, et puis surtout, je voudrais insister sur la question des interrelations, des interdépendances entre les facteurs, et balayer cette fois-ci le concept et les méthodes, et laisser pour la suite les applications, en particulier dans les grands domaines, autre que celui de la médecine, autour de ces principes. Alors d'abord le phénotype. Qu'est-ce que c'est pour rester dans les mots simples ? C'est finalement un résultat tout à fait mesurable, hein, autour d'un certain nombre d'indicateurs très simples, des interactions entre le génome et l'environnement. Hein. La taille est la résultante d'une multitude de gènes qui s'expriment en fonction de ce que l'environnement laisse à cet organisme finalement exprimé comme potentialité de croissance jusqu'à atteindre sa taille adulte et y rester pour un certain temps avant de diminuer doucement. Le phénotype, donc, ça peut être, par rapport à cet indicateur, en fonction d'un autre qui va fluctuer, qui va varier, ça va être la vitesse, par exemple, la vitesse de déplacement. Ça va être la taille, je l'ai dit, ça va être le poids, ça va être le débit cardiaque, c'est un indicateur tout à fait mesurable, ça peut être aussi la durée de vie qui va changer avec le temps, par exemple, et donc on voit l'augmentation de l'espérance de vie en France. Et puis le phénotype et ses déterminants, ça peut être donc le temps, ça peut être le sel, et on sait que le sel va avoir une part extrêmement importante dans le Programme National Nutrition Santé, le PNNS. Cette réduction de la part va permettre d'augmenter les années de vie en réduisant la part de l'hypertension artérielle en population. Ça peut être le poids, et en particulier cet indicateur, l'indice de masse corporelle, l'IMC. Ça peut être l'énergie dépendante. Et puis, sur la vitesse, on peut avoir les mêmes choses, le temps, l'âge, l'indice de masse corporelle et l'énergie. Et tout cela va nous donner finalement un indice qui nous donnera une mesure de la performance pour caractériser la fonction. Et la fonction est essentielle en physiologie pour pouvoir voir comment se développe une capacité d'organe, une performance d'organe. Et donc le phénotype résultant va dépendre de multiples facteurs, et vous allez les voir, qui sont souvent interdépendants. Ici, on regarde en trois dimensions, vous allez avoir tout autour de ces deux axes une série d'autres possibilités qui vont toutes exprimer une capacité et une interrelation. C'est celle-là qu'on va étudier ce matin. Puisqu'en effet, l'organisme et l'environnement, ce qui porte les potentialités de cet organisme pour le génome et l'environnement, ne sont pas indépendants l'un de l'autre. Ils sont intriqués. Et donc, c'est un processus qui va être une réflexion, finalement, de la biologie des espèces. Et c'est cette interaction constante qu'on va avoir entre l'homme et ses espèces commensales, hein, ou son microbiome, toute la partie du microbiote interne qui est essentielle pour notre digestion, qui va être aussi un des facteurs importants de notre équilibre. Et autour de tout cela, entre l'organisme, l'individu et puis son environnement, vont apparaître des boucles, souvent qualifiées par Hervé Le Guyader de boucles étranges, qui génèrent des paradoxes. Et ces paradoxes-là sont à dépasser petit à petit, puisque l'un va toujours et constamment influencer l'autre. L'organisme, l'environnement, les réponses de l'environnement sur l'organisme, petit à petit, vont se faire pour développer un certain nombre de capacités. Et dans ces boucles, on trouve un tas de choses. On trouve en particulier un oxymore particulier, celui du développement durable. Chacun ayant fait l'expérience de sa naissance sait que le développement n'est pas durable. On sait que c'est une phase de croissance qui se termine à un moment donné et qui laisse place à une autre, place, à une autre phase, mais qui va surtout donner un équilibre entre les minima et les maxima potentiels. Maxima vont nous intéresser parce que entre ces deux bornes inférieures et supérieures se définit l'homéostasie et donc la possibilité qui est ouverte, offerte aux vivants. On qualifie souvent d'ailleurs d'inégalité, à mon avis, à tort. Et ce qui va nous intéresser, c'est de comprendre ces phases de développement, l'histoire, leur dynamique, leurs limites, et puis les écarts, leur croissance et leur décroissance également. Et donc le but aujourd'hui pour moi, c'est de vous proposer un certain nombre de ces concepts, un certain nombre de ces outils pour anticiper nos problèmes de développement et d'adaptation humaine. Je pense qu'on a eu une science extraordinairement riche au XIXe siècle autour de la science fondée sur l'hypothèse, hein, et c'est Claude Bernard qui nous accueille ici, juste devant le collège, et qui en a été une des plus grandes lumières en France. On a eu ensuite au XXe siècle, et surtout dans la fin du XXe siècle, une science qui a été dominée par les données. Hein, c'était data-driven, c'était le big data, donc cette information extraordinairement puissante qui est venue crouler sur nos têtes. Et il me semble que maintenant, il faut encore passer une étape de plus, c'est-à-dire se fonder sur les concepts et revenir en prenant toutes ces données et avec l'exhaustivité de ces données. C'est ça qui va être un des points majeurs tels qu'on peut y prétendre, en tout cas, en toute modestie, à partir des sportifs de haut niveau, c'est qu'on va pouvoir avoir l'enveloppe et l'exhaustivité du développement de cette enveloppe. Et puis on regardera donc les croissances, les limites, les optima, et comme je vous le disais, essayer de trouver des exemples qui puissent être démontrables, modélisables, d'interactions multiples. Parce que de fait, se joue là une course extraordinairement difficile, dont on ne connaît pas l'issue, entre nos capacités d'adaptation, dont on fait l'inventaire actuellement, et ce premier colloque était l'objet de cela, et le deuxième au mois de mai le sera également, et les contraintes, ces contraintes qui augmentent dans l'environnement et que l'environnement nous impose. Et cette course, comme le disait André Lebeau, se heurtera évidemment à notre capacité à accepter les limites de notre évolution, qu'elles soient pacifiques ou pas, cette acceptation, ce sera un des grands problèmes. Mais surtout, il le notait à nouveau en écho à Claude Lévi-Strauss, il n'est pas certain que nous ayons été préparés en quoi que ce soit à ces changements majeurs autour de l'environnement auxquels notre espèce va être soumise. Et donc, à partir de là, le constat, tant pour l'impact de ces contraintes sur nous-mêmes que l'impact sur l'environnement, à un rythme surtout, et les échelles de temps vont être majeures, à un rythme extrêmement élevé, pour que l'ensemble des espèces au sein de cette évolution puisse s'y adapter, reste une des problématiques également de ces constantes de temps qui doivent respecter un certain nombre de règles. Et le problème, c'est qu'il semble que nous arrivions donc à la fin de ce cycle de développement, avec ses limites maintenant de plus en plus nettes, et le vivant, en général, vous le savez, n'accorde pas une grande pérennité à ces équilibres qui sont toujours transitoires et bien souvent éphémères. C'est un petit peu ce que Alain Prochian résumait ici il y a quelques années en disant que cette espèce, qui est au tout début et peut-être à la fin de son développement, définit finalement ce qu'est une espèce jeune et fulgurante. C'est en ce sens, porté par l'ensemble de ses capacités, de ses qualités, qu'il faut comprendre notre problème du jour. Et donc, pour en venir à ce que Albert Camus, dont on fête le centenaire de la naissance il y a juste deux mois, dans le mythe de Sisyphe, abordait un certain nombre de ces points, et je vous propose de le prendre comme guide ce matin autour de ces questions. Alors la première remarque qu'il faisait dans le mythe de Sisyphe, c'est d'abord de se situer, on peut le trouver assez étrange, assez rare dans la bouche de Camus, mais c'est de montrer que tous les records, finalement, sont une façon unique d'être au monde, d'être face au monde le plus souvent possible. Et en ce sens, il montrait déjà ce que Archibald Hill, prix Nobel de physiologie et de médecine, avait montré, qui était cette idée qu'en repoussant les limites, cette quête de dépassement nous apprend énormément de ce que sont finalement ces points d'interaction entre l'humanité et son environnement, entre les capacités intrinsèques et ce que l'environnement offre de possibilités. Alors quand on regarde cette expansion physiologique, on voit qu'effectivement, et Geoffroy Berthelot l'avait très bien montré, nous sommes arrivés depuis 1896, les premiers Jeux Olympiques, jusqu'à ceux de 2012 à Londres, on est arrivé à peu près à 99% de nos possibilités maximales. Et vous voyez que l'impact principal se fait dans le recul des deux guerres mondiales, première et seconde guerre mondiale, avec des effets qui vont jouer sur des retraits qui peuvent aller de 6 à presque 13 ans avant de retrouver le niveau, mais sur une expansion globale qui est cette longue expansion physiologique humaine. L'expansion économique rejoint une courbe qui est tout à fait similaire, avec à nouveau les deux phases d'arrêt sur le PIB français. On trouve sur le plan de l'expansion technologique pour la mesure de la température océanique, à nouveau, le même type d'expansion qui va culminer aux alentours des années 90 et dont on voit en ce moment même une certaine régression alors qu'on a énormément besoin de modélisation pour comprendre ce que sont les prochaines phases d'El Niño ou de la Niña par exemple qui ont des impacts climatiques majeurs. On voit qu'on commence à perdre un petit peu nos capteurs dans ce domaine, mais sinon la phase d'expansion est rigoureusement parallèle à celle que je vous ai montrée et bien entendu celle de l'espérance de vie en France avec un très gros débat sur ce que sont les valeurs actuelles dans ce domaine. Si on les regarde de façon précise pour les femmes, on voit que, après celle du petit recul de 2003, impact thermique qu'on va voir tout à l'heure, les pentes entre ce qui se passe dans les années 50-60 et ce qui se passe maintenant ont diminué d'un facteur 5, elles ont diminué d'un facteur 2,5 chez l'homme en 50 ans. Et depuis 2011, 85, 84, 9, 85, on voit que l'espérance de vie féminine commence réellement à marquer le pas dans ce domaine, comme c'est le cas d'ailleurs chez les femmes d'origine européenne aux États-Unis. Et donc, c'est ce que France Mellet et Jacques Vallin signalent, que les rythmes de croissance sont maintenant beaucoup moins soutenus que ce qu'on a connu auparavant. Alors cette idée maintenant est de savoir un petit peu comment se développent les paysages autour de ces phases, quels sont finalement les champs de force, comment comprendre comment est organisé ces champs d'interaction, et finalement, est-ce qu'on trouve des lois qui, comme celle de la gravitation, nous disent en chaque endroit quasiment de l'espace terrestre, se trouve la même fonction d'attraction, la même gravité. Et ce que Michel Morange nous dit, c'est qu'il y a bien des structures, des règles qui limitent l'espace des possibles et qui lui donnent une certaine géométrie, donc avec une approximation qui peut, par le biais de la mathématique, le biais de la physique, induire un certain nombre de choses qui vont nous dire que finalement, en général, les pommes ne tombent pas à côté des têtes de Newton. Elles finissent bien par entraîner une phase d'observation, de compréhension, qui déroulera ensuite le grand cheminement de la science. Ces contraintes, elles sont hiérarchisées. Elles ne sont pas mises dans un chaos indescriptible. Il existe des règles dans la complexité de ces interactions qui vont respecter des lois qui sont hiérarchisées autour de ce que sont les systèmes. Systèmes physiques, avec des lois de la thermodynamique pour le métabolisme cellulaire, des systèmes chimiques avec des compétitions, des coopérations entre enzymes et des coordinations pour la partie de régulation, et puis le système vivant qui a encore un degré de complexité supplémentaire qui va jouer sur l'adaptabilité, la robustesse, l'efficacité, qui, elles, vont permettre la pérennisation. Alors ces formes-là, elles vont prendre des aspects dans lesquels je ne vais pas rentrer, simplement pour vous citer simplement trois noms, ceux de Gompert, de Lotka et Volterra, et puis plus récemment de Vitaly Yukalov, qui propose un certain nombre d'options sur ces phases de croissance, qui sont tout sauf linéaires. On a bien entendu fini par abandonner ce schéma qui nous aurait fait courir le 100 mètres en moins de 5 secondes, et puis en continuant en linéarité en moins de 2 secondes, donc finalement en 0 seconde, en vitesse infinie. Mais vous continuez le développement, et à ce moment-là, vous courez en le 100 mètres en moins de 2 secondes, en moins 4 secondes, avec des valeurs négatives qui n'ont aucun sens sur la réalité physique. Donc dans cette progression-là, on voit bien qu'il va passer par d'autres fonctions, par d'autres rôles, et j'aurai juste une diapositive pour vous montrer ce que sont ces options pour décrire les lois logistiques principales dans lesquelles on va avoir arrivé ces asymptotes, et je n'aurai donc que cette diapositive, je vous rassure, sur le plan mathématique, pour vous donner juste un point qui est le rôle finalement de cette capacité de support. On voit que l'augmentation d'une population sur son nombre va dépendre non seulement de ce qu'elle est, de ce que sont les écarts entre ce qui est produit, la naissance par exemple, et ce qui disparaît, les décès, de la compétition et de la coopération entre groupes, mais aussi et surtout de cette capacité de support, le carrying capacity, qui va venir autour de ce que justement permet l'environnement et les circonstances environnementales. Et ceci va se faire avec un développement qui est multi-exponentiel par série. Vous l'avez ici, par exemple, sur la démonstration de ce que sont les vitesses sur le Tour de France, le Giro, la Vuelta, Milan-San Remo, Liège-Bastogne-Liège. Et quand on regarde la moyenne des 10 meilleurs, on voit bien qu'on a, avant la Première Guerre mondiale à nouveau, avant la Seconde Guerre mondiale, et puis un plateau, avant d'arriver à cette dernière question de l'impact de l'EPO dans les années 90 sur cette vitesse moyenne. Mais on a bien ces aspects qui nous montrent que progressivement, on va pouvoir monter dans les tours, si j'ose dire. Et sur ce champ-là, on va avoir des effets qui vont, pour la natation, de la même façon, en mesurant sur les 10 meilleurs nageurs chaque année depuis 1962, pour le 100 mètres et le 200 mètres sur nage libre dos, bras et papillons. Donc vous avez 8 courses et 80 nageurs par point chez les hommes. Et ce que vous voyez, eh bien, c'est la même chose, avec une toute petite fluctuation qui, tous les 4 ans, va vous amener au-dessus du lot dans une progression générale qui est la progression physiologique, auquel s'associe le développement ici de la partie des combinaisons qui, dans les années 99 à 2009, ont révolutionné la natation, et puis cette alternance olympique qui veut qu'on gagne à peu près 1% en année olympique pour reculer de 0,5% l'année suivante. Et globalement, ces cycles du développement vont avoir une composante majeure qui est la composante physiologique, qui en natation va se traduire par une augmentation de 15 à 16% sur ces 50 années, un cycle technologique, et là on voit bien que l'impact va être important dans ce domaine, il est mesurable en termes sportifs, mais il est mesurable aussi en termes d'espérance de vie, quoique plus difficilement, et là-dessus on a des cycles socio-culturels, qui sont ceux par exemple du rythme olympique, qui vont venir petit à petit moduler très très légèrement cette courbe de développement physiologique. Et de la même façon, sur les vitesses de course moyennes du 100 mètres au marathon, vous avez 10 courses et 100 athlètes par point, et bien ce que vous voyez, c'est strictement la même chose, et surtout que depuis 20 ans, presque 20 ans, on est au plafond de ce développement. Il reste encore quelques records chez Usain Bolt, mais ça fait 5 ans qu'il ne l'a pas battu. On voit encore le marathon qui progresse. On s'intéresse à la question de l'EPO au niveau des meilleurs résultats actuellement, bien entendu. Mais sur l'ensemble de ces points, on voit sur le 400, sur le 800, que cette capacité de déplacement, la bipédie qu'a si bien étudié Yves Coppens, finalement nous amène à un certain nombre de ces plafonds depuis maintenant 18 ans. Alors, quel plafond ? Pourquoi ces plafonds ? Avant de s'intéresser au plafond, on va regarder le plancher. Et le plancher, pour soutenir les sumotori, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et on va regarder ces relations de la performance avec l'âge. Si on regarde donc chez les sumotori, ce qu'on voit, c'est que le point maximal par saison, dans les plus grands tournois au Japon, notamment le tournoi de Tokyo que vous avez ici, est finalement une fonction très simple de l'âge. Hein, vous voyez ce coefficient d'adéquation extrêmement élevé. On le retrouve sur le marathon. Et avec le temps, des jeunes coureurs sont capables à 4 ans d'inscrire des premiers résultats. On ne voit pas trop bien l'intérêt, évidemment, hein, mais ça existe. Et donc, du coup, quand on recueille sur le plan de l'archive, on doit bien en tenir compte pour voir l'ensemble se construire. Et vous avez à l'autre bout, Faujasing, jeune centenaire, qui vient d'établir le dernier record du monde sur le marathon de Toronto en 8h25 minutes et 30 secondes. Et vous voyez que cette capacité de vitesse-là est une pure fonction de croissance et de décroissance du temps, toute simple, finalement avec un très très haut degré d'adéquation descriptive. Le marathon paralympique, de la même façon, avec un tout autre contrôle moteur, va donner le même type de résultat. Et tout le sport en général, y compris les sports collectifs, y compris les sports de combat, vont fonctionner sur une capacité de mesure de cet indicateur de croissance dans les premiers temps. On passe de l'âge des minimes au cadet, au junior, pour ensuite avoir son temps de senior. Et puis progressivement, les vétérans, on voit qu'on ne cesse de diminuer dans ses capacités. Et si c'est le cas, eh bien c'est simplement que sur le pied des organes qui nous tiennent, la vascularisation pulmonaire, elle monte, et puis progressivement cette vascularisation va diminuer. La variabilité cardiaque, le cœur qui nous pulse, va finalement avoir le même type de variabilité, et y compris nos capacités intellectuelles, celle de la vitesse d'identification, celle dans laquelle je reconnais sur un visage la joie, la peur, l'agression. Dieu sait si c'est important, Alain Berthaus l'a très bien montré. On va avoir cette capacité qui va culminer un tout petit peu après, hein, de 5 à 6 ans après le précédent, mais ensuite décliner dans ce domaine. Vous voyez que là, ces études sont faites maintenant sur des cohortes extrêmement importantes de sujets, notamment Harvard, par l'Hermina Germain. Et toute la physiologie humaine, finalement, reins, cerveau, cœur, foie, va fonctionner sur le même principe qui est celui de ce développement, de ces phases de croissance, suivies de phases de décroissance. La physiologie animale ne change pas non plus sur cet aspect-là, puisque vous voyez chez le lévrier, la vitesse de course en kilomètres heure fonctionnait avec un âge en mois cette fois-ci, hein, qui va culminer à peu près avant de décroître. L'activité spontanée chez la souris suit le même rythme. Et l'activité locomotrice, on sort de la classe des mammifères, chez le nématode, Caenorhabditis elegans, va montrer là encore, avec des mutations différentes selon les groupes, mais des capacités qui vont dépendre finalement de la vitesse de déplacement, de l'activité locomotrice en fonction de l'âge, et cette fois-ci, on est en jour. Donc à chaque fois, on voit bien que sur l'ensemble du règne animal, on commence à le voir sur la photosynthèse dans le règne végétal, on va pouvoir retrouver le même type de relation également. Et cette fonction, telle que je vous la décris, finalement, elle est l'association d'une courbe très simple, cette fonction de croissance en jaune qui culmine et s'arrête, et puis cette fonction de décroissance qui est, elle aussi, dépendante d'une exponentielle très simple en fonction du temps, alors que la fonction de croissance dépend du génome, des capacités, puis surtout de l'énergie, donc finalement, là encore, de l'environnement favorable ou non à cette croissance initiale très importante pour ce qui nous concerne, en particulier sur tout le domaine de la prévention, pour éviter les maladies infantiles, les maladies du développement, et débloquer toutes ces, finalement, ces seuils afin de permettre d'arriver à son potentiel maximal, optimal. Et pourquoi ? Eh bien, simplement parce que quand on regarde finalement les fonctions de croissance, ce taux de croissance lui ne cesse de décroître avec le temps, dans les phases initiales, et puis ça s'arrête complètement sur la fin, alors que on va avoir un coût de maintenance et donc une fonction anthropique qui, elle, ne cesse d'augmenter. Et c'est cette fonction de dégradation qui va progressivement amener toutes les maladies type Alzheimer, hein, avec des dépôts protéiniques à l'intérieur des neurones, et qui va montrer ce changement entre la phase de développement, alors que la dégradation ne se fait pas sentir, et cette accélération, qui est simplement le biais de l'exponentielle, qui va être finalement la phase de vieillissement, à partir du moment où la croissance n'existe plus. On a toujours quelques fonctions de remplacement qui tiennent, mais qui progressivement s'épuisent, et donc le coût, là encore, va être progressivement de plus en plus important, et c'est pourquoi, que ce soit sur les troubles cognitifs, sur l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance pulmonaire, l'insuffisance rénale, ou le type de démence vasculaire, à chaque fois on retrouve cette même augmentation avec l'âge, qu'on soit en France, aux États-Unis, en Thaïlande, en Allemagne. L'ensemble des grandes études nous montrent constamment ce type de relation strictement liée à cette partie de diminution des capacités de performance. Alors rentrons maintenant dans l'idée de ce que sont les interactions entre finalement la physiologie, le temps, la démographie. Cet aspect de la biodémographie va s'inspirer de ce que sont ces réflexions autour des aspects de croissance et décroissance pour vous montrer que dans la troisième dimension, celle qui, je dirais, sort du champ de l'écran ici pour venir vers vous, on va en fait avoir la distribution de toutes nos capacités entre ceux qui sont les grands outliers, les exceptions, hein, Jean Rusenbold pour la vitesse max, ceux qui se trouvent ici, comme vous et moi, au milieu, avec des capacités de vitesse sur le 100 mètres modestes, on va dire, et puis ceux qui sont progressivement limités, on va avoir, comme très fréquemment, l'ensemble de ces points. Et si on bascule cet aspect-là, en fait, on va voir se révéler donc les capacités en fonction de l'âge, c'est la courbe de Moore que je vous ai présentée, croissance-décroissance, et puis un rôle important qui est celui finalement de la distribution dans la génération, c'est-à-dire sur l'ensemble de l'indice démographique, comment se répartit cette capacité simplement avec le nombre. Et là, on va apprendre énormément de choses. On va apprendre, par exemple, que cet aspect-là, effectivement, limite les capacités au début, mais le nombre reste identique. Il ne fait que décroître sur la fin. Et si on regarde l'ensemble de cette distribution, la courbe de Moore, qui est celle des capacités, s'associe à une autre courbe qui, elle, fait la somme de tous les présents, et c'est la courbe de survie. La courbe de survie, c'est la courbe de Kaplan-Meier, celle sur laquelle on va pouvoir comparer l'ensemble des fonctions et l'ensemble des impacts sur une population donnée en fonction de, finalement, la progression de cette génération dans le temps. Et sur cette courbe de Kaplan-Meier, un des problèmes actuels qui se passe, c'est celui manifesté par Canisto il y a à peu près 10 ans, qui montre une certaine compression de la mortalité. Qu'est-ce que veut dire cet acronyme ? C'est simplement qu'entre le 19e siècle et le début du 21e, on voit que la pente ici ne cesse de s'enraidir. Vous voyez progressivement cette pente augmenter. On l'a très bien mesuré quand on s'intéresse maintenant au pied de cette courbe ici et qu'on regarde en détail, en particulier chez les athlètes olympiques, les Olympiens et les supercentenaires, ceux qui ont plus de 110 ans. On se rend compte que si on montre l'impact de l'âge au décès en fonction de l'année de naissance, eh bien en 25 ans, cette pente, là ici mesurée dans la démographie, a été finalement augmentée d'un facteur 2, et on voit bien que cette pente s'enraidissant, on bute sur quelque chose qui veut que, eh bien, 122 ans pour l'instant record du monde de la durée de vie dans l'espèce humaine, on voit que ce recul qui est maintenant entre de 7 ans, puisque c'est entre 116 et 115 ans que se situe le niveau des doyens actuels, qui ne cessent d'ailleurs de se transmettre le relais tous les 3 mois, dans lequel cet aspect-là nous montre qu'on n'arrive pas à cette expansion majeure vers laquelle pourtant un certain nombre d'organes de presse nous emmènent aux alentours de 150-160 ans. C'est illusoire. Pour l'instant, on voit au contraire que cet aspect bute sur une limite majeure aux alentours du maximum produit. Deuxième aspect, celui du génome et celui de l'impact sur la durée de vie. Toute maladie chronique va réduire à la fois les capacités et réduire une partie, bien entendu, de l'espérance de vie. Et cet aspect-là, par rapport à la courbe que je vous ai montrée, si on l'étudie dans une maladie qui s'appelle la maladie d'Ehlers dans l'os, qui va avoir des impacts importants à la fois sur le plan articulaire et sur le plan vasculaire, 100% des patients présentent un événement vasculaire avant 50 ans. Quand ils souffrent de cette maladie, pour une mutation sur le collagène, on va avoir des aspects qui vont réduire de façon considérable à la fois les capacités, capacités vasculaires, capacités d'organes, mais aussi la durée de vie. Et on va à ce moment-là, par rapport à la courbe identique aux États-Unis, avoir une réduction de quasiment 30 ans de la médiane de survie de l'ensemble de cette population. Et vous voyez qu'on voit bien cette interaction-là entre les fonctions et finalement ce qui est porté sur la fin dans le constat de la durée de vie totale. Venons maintenant à ce que sont les caractéristiques de l'interrelation entre la courbe de Moore et la courbe d'expansion pour voir comment sur les records du monde en natation, et je vous l'avais montré celle-là il y a 4 ans également pour ceux qui avaient assisté, on va voir sur les courbes individuelles de Tom Jaeger, pour ceux qui se souviennent de ce très grand nageur des années 80, sur les 50 mètres nage libre, voici la vitesse de déplacement hein, qui est de l'ordre du mètre par seconde jusqu'à 2,40 m actuellement. Alexander Popov, le dernier en maillot de bain, au jeu d'Atlanta puis de Sydney. Et puis Frédéric Bousquet, qui a été juste avant César Skiello, le dernier Français à porter ce record du monde grâce aux combinaisons. Chacun apporte sur son record personnel, finalement, sa capacité de croissance. Et ce point-là, qui est son record individuel, vient sur la courbe des records du monde montrer à la fois cette progression, mais en même temps la difficulté que l'on trouve maintenant, et en particulier depuis qu'on a interdit les combinaisons, à retrouver ces valeurs à ce degré. Et donc on voit bien que là, on va avoir une difficulté, celle de l'adéquation entre les courbes individuelles de notre croissance et les courbes collectives, c'est-à-dire celles du développement. Et c'est dans ce constat douloureux, tel que le fait Camus, que nous allons devoir organiser la lutte, si j'ose dire. Sur le 800 mètres, même chose, vous avez ici chaque point parmi les 10 premiers, hein, première, seconde guerre mondiale. Sur le 400 mètres, première et seconde guerre mondiale, les hommes et les femmes, à chaque fois vous voyez le même type de courbe et à chaque fois vous voyez le même impact finalement de l'immense difficulté à progresser encore, et y compris d'ailleurs avec le grand dopage aux stéroïdes des Allemandes de l'Est dans les années 70 et 80 qui ont culminé aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988. Et toutes, finalement, les disciplines à record, athlétisme, natation, cyclisme, haltérophilie, auxquelles s'associe le patinage de vitesse en ce moment à Sochi, finalement montrent le même type de plateau dans les 20 dernières années. Et cette expansion phénotypique, il faut la comprendre en fonction du temps, c'est-à-dire que globalement, on va avoir cette courbe de Moore, l'indicateur phénotypique en fonction de l'âge, et ici, si on regarde se décaler dans le temps cette fonction de Moore, en fait, du 18e, 19e jusqu'au 21e siècle, on va avoir progressivement cet aspect qui va montrer un ensemble de qualités qui vont porter à la fois sur les vitesses maximales, sur les capacités maximales, sur les records maximum, à tous les âges, y compris pour Fojassine qui vient de battre le record du marathon, et en même temps associer cette courbe avec une augmentation de l'espérance de vie qui va culminer en 97 avec Jeanne Calment. Et c'est dans ce processus d'expansion qu'il faut comprendre nos relations à l'environnement, ce qui a été favorable, l'énergie notamment, que nous avons utilisée, pour pouvoir montrer ces principes. Cette courbe de croissance des corps est directement associée aussi à la courbe de croissance de l'espérance de vie maximale. Pourquoi ? Parce que ces systèmes sont des systèmes assez complexes, mais qui vont avoir des règles sous-jacentes qui vont suivre ces fameuses règles telles qu'on l'a vu proposées par Michel Morange. Un système complexe, c'est quoi ? C'est un système qui s'oppose à un système fermé, statique, qui lui va se désorganiser avec le temps, et dont les structures vont disparaître progressivement vers l'homogénéité, et à l'inverse, un système ouvert, complexe, c'est un système qui est traversé d'un flux de matière et d'énergie, qui va être à l'opposé de ces équilibres thermostatiques, et qui, par ce biais, va proposer un certain nombre d'options, de variabilité, d'auto-organisation, qui vont faire apparaître des structures, et c'est ça qui est à l'origine de la diversité. Diversité dans les structures à un niveau donné, ce sera la complexité du niveau supérieur, quand on va regarder comment, finalement, à partir des êtres unicellulaires, on aboutit aux êtres pluricellulaires, et des êtres pluricellulaires, définir des fonctions particulières, spécifiques pour un foie, un cœur, un cerveau, un muscle. Et il y a une hiérarchie de l'ensemble de ces niveaux, très bien montrée par Daniel Macchi et Brandon il y a 4 ans maintenant, cette hiérarchie dans l'échelle spatiale qui va de la particule, molécule, cellule, organe, individu, espèce, jusqu'à éventuellement des règles universelles dans les grandes lois de puissance, eh bien toutes ces interactions finalement se font entre tous les niveaux et c'est dans ce domaine-là qu'on doit également comprendre la façon dont les uns vont interagir avec les autres simultanément. L'aspect de simultanéité est extrêmement important pour comprendre comment à la fois la partie de sélection naturelle va venir sur un organe spécifique, une fonction particulière s'imposer, mais alors qu'elle s'impose également aux autres niveaux. C'est dans ce point d'interaction-là qu'on a, me semble-t-il, le plus de progrès à faire dans le domaine. Et non seulement elles doivent être présentes, mais elles doivent être synchrones. À nouveau, dans la qualité du développement pour un embryon, dans son développement, puis développement fœtal, puis il faut que des phases surviennent en même temps, faute de quoi vous n'aurez pas la fonction adulte efficace. On voit très bien qu'il y a parfois quelques heures seulement pour que une hormone, comme tu le présentes régulièrement si bien, vienne faire son effet, et que cet effet-là, y compris sur le plan cérébral, pour l'impact de la testostérone par exemple sur nos comportements adultes, va jouer sur ces effets. Donc on va avoir des effets extrêmement importants dans ce domaine-là, et des effets qui vont choisir finalement les niveaux auxquels ils s'appliquent, et c'est ces fonctions d'autoréférence finalement qui vont expliquer toutes les composantes fractales qu'on avait développées avec Mandelbrot il y a 4 ans. Mais les relations restent simples entre deux facteurs. C'est dans la multitude des interactions que se fait la complexité. Alors heureusement, on commence à avoir un certain nombre de règles qui nous permettent d'aborder ce point et de montrer que ces trajectoires individuelles en évolution collective vont finir par porter un certain sens. On ne les comprend pas, elles restent dépendantes des conditions initiales. Dans ce domaine, la stabilité de l'ensemble, stabilité structurelle, sera importante, et c'est dans la définition de ces attracteurs étranges, boucles étranges de Le Guyader tout à l'heure, qu'on va voir que ces aspects, l'aile de papillon, cette dépendance finalement avec les tempêtes au Texas, dans ce que sont les démonstrations populaires de l'effet papillon, c'est bien que les dominos s'enchaînent et que finalement les stabilités statistiques de l'ensemble gardent cette cohérence et qu'on va trouver à ce moment-là des capacités d'interroger ces interactions. Alors comment on y parvient ? C'est notamment le travail de Bernard de Chazelle ici, de montrer qu'il existe des fonctions d'algorithmes qui permettent d'aller chercher dans des systèmes interactifs les uns avec les autres, donc des populations ensemble, des individus ensemble, des effets qui vont s'inscrire dans ces algorithmes naturels et qu'ils seront approchés par des algorithmes mathématiques. Et cet aspect-là, vous en avez la démonstration dans ce court extrait de nuée des tourneaux à l'automne, dans lequel vous voyez progressivement ces masses d'oiseaux qui vont prendre des formes extraordinaires, qui sont tous en interaction avec la vitesse de leurs voisins, de leurs congénères. C'est à chaque fois ce point-là, la vitesse à laquelle et le déplacement, l'angle que fait l'oiseau voisin, qui va créer finalement les formes complexes telles qu'on les voit ici. C'est extraordinaire, ce point-là, celui de la complexité, de la diversité, et finalement qui nous ébahit, porté par ces fonctions algorithmiques, est extrêmement important. Et ce qui est important, c'est de voir comment on peut progresser dans cette science des interactions. Avec le temps, on l'a vu, pour l'âge et pour l'évolution, avec l'énergie, qui sera probablement la principale limite au XXIe siècle. Et puis, on va regarder comment ces interactions peuvent se faire, par exemple, sur la démographie et l'espérance de vie. Vous avez une relation très simple entre l'énergie consommée par individu, l'énergie per capita, et la démographie. Et vous voyez, au cours du XIXe et XXe siècle, que globalement, plus la démographie augmente, aux alentours de 7,5 milliards maintenant, et plus on va avoir une augmentation de l'énergie consommée en moyenne dans l'espèce humaine, mais avec un plafond qui commence à apparaître maintenant. Deuxième courbe entre l'énergie et l'espérance de vie, cette fois-ci, nous montre que là, on est dans une fonction logarithmique. Cette fonction va en fait plafonner, elle aussi, avec la consommation d'énergie dont on vient de voir qu'elle est limitée par la démographie. Et donc on a une association avec une augmentation très importante, d'abord dans les pays en développement, puis qui va culminer dans les pays développés, dans lesquels on voit que progressivement, ce lien-là, lui aussi, fait partie d'une démonstration d'effet de rendement décroissant. Et le lien entre les trois nous montre cette fois-ci qu'en fonction de l'énergie consommée, de l'espérance de vie gagnée et de la démographie qui ne cesse de croître, voici le parcours qu'on a fait depuis la création du Collège de France. 16e, 17e, 18e, 19e et 20e siècle, on arrive ici sur une phase dans laquelle l'enraidissement de la pente, là encore, en termes de gain potentiel d'espérance de vie, devient de plus en plus difficile en raison de la démographie et malgré l'augmentation de la consommation énergétique. Et donc cet article dont parlait Gilles tout à l'heure, paru dans Futurib, nous montre bien que ces interrelations-là sont très importantes à établir et à comprendre de façon à ce qu'on puisse anticiper ce que seront nos trajectoires possibles. Et donc bien entendu, la question à 80 ans d'ici se posera de savoir dans quel sens vont évoluer les autres de ces critères en retour. Autre dépendance, puisqu'on parle climat et que cette question autour de la température va être extrêmement importante, c'est celui justement de notre physiologie avec cet indicateur aussi simple que l'élévation thermique. Si vous prenez des marathoniens qui ont assez de folie pour aller de temps en temps s'exprimer sur les endroits les plus intéressants de la planète, le Spitzberg, le pôle Nord, le pôle Sud, mais aussi le désert, vous avez ici sur le Marathon des Sables deux épreuves qui se sont courues en 2009 par 29 degrés et en 2008 par 42 degrés. Et vous voyez l'impact important, le recul de la courbe rouge par rapport à la courbe bleue, donc à peu près une demi-heure d'écart, mais on peut se dire que cela ne concerne que quelques rares athlètes qui ont justement ce petit grain de folie. Quand on regarde par contre ce qui se passe sur les marathons de Londres, de Paris ou de Chicago, qui sont courus à des latitudes tout à fait raisonnables et par des températures à peu près idéales pour le marathon, on voit que Chicago en 2001, 7 degrés, la distribution entre les meilleurs, l'élite, la grande majorité, la masse ici aux alentours de 4h30, hein, et puis les retardataires, finalement va avoir, pour l'année suivante, à peu près dans les mêmes conditions, une distribution très, très similaire. En 2008, 22 degrés, on a augmenté de 15 degrés, et vous voyez à nouveau marqué l'impact de cette élévation thermique d'un recul de 15 minutes sur les premiers et d'un recul d'une demi-heure à trois quarts d'heure sur l'ensemble du groupe. Et 2007, qui s'est couru par 28, a été encore plus catastrophique avec à peu près 300 hospitalisations pour coup de chaleur et un décès lié à cette condition absolument majeure d'incapacité à éliminer la température. Et donc cette construction-là nous permet à un moment donné de venir sur cet impact de la température pour regarder comment, par rapport à ce temps à l'arrivée, et donc la grande question est de passer le front des deux heures actuellement, en fonction de la température qui va aller de moins 40 sur les courses du pôle Nord et du pôle Sud à 10 degrés, l'optimum, et jusqu'à plus 40 degrés dans le Marathon des Sables, va se distribuer finalement, pôle Nord, distribution sur l'hémisphère Nord, Paris, Londres, Chicago, avec une augmentation du nombre d'inscrits et du nombre de participants, et progressivement, là encore, une diminution jusqu'aux meilleures performances, mais très en recul parmi les marathoniens des sables. Et c'est sur toute cette distribution-là que vont porter, finalement, les fonctions de régulation entre la température et la performance. Et c'est par rapport à cela, comme sur le plan de l'interaction du génome et de la démographie, que vont se faire, y compris sur l'élite, qui vient entre, finalement, moins 3 degrés et plus 20 degrés, rarement plus, disputer les meilleures courses, mais qu'on ne retrouve jamais sur les marathons les plus extrêmes. Et sur cet aspect-là, on a là encore un paysage de performance, un paysage physiologique qui répond à cette interaction entre les capacités et l'environnement. Cet aspect-là va jouer donc sur la performance optimale à 10 degrés. Ici, c'est le temps du vainqueur par rapport à la température. C'est la même courbe inversée. Et cette courbe, c'est finalement celle qu'on retrouve sur la mortalité. Bernard Swingedow, qui nous a rejoint, a beaucoup étudié cette partie-là. Et là encore, on voit qu'à un décalage de 10 degrés près, la réponse, la fluctuation de la mortalité au pas de temps quotidien en France va finalement être marquée par cette dépendance à la température. Voici le cycle habituel, avec une augmentation de la mortalité journalière qui dépasse les 1700-1800 décès, uniquement en cette période-ci d'ailleurs, en général, entre fin janvier et début février, et puis une diminution de la mortalité pendant l'été, c'est la phase rouge, chaque année, depuis 1975 jusqu'en 1990, une diminution très importante, et puis toujours un petit pic, là, fin juillet, début août. Et cet aspect-là nous montre qu'en fait, on a un rythme annuel qui culmine donc en janvier-février, un petit pic en juillet-août, et puis deux optima en juin et fin août, début septembre, avant de réaugmenter sur la mortalité suivante. Et ceci est lié à ces conditions d'optimum dans lesquelles, entre décembre, février, mars, juillet, août, novembre, on ne va pas cesser, finalement, de fluctuer de part et d'autre de cette courbe des optima. Cette courbe, si on l'inverse, pour regarder ce qu'est la fonction de survie, on va voir arriver en fait le même type d'interrelation dans lequel finalement cet optimum apparaît, et c'est bien ça, dans cette fonction de survie, qui va nous permettre d'observer ce que sont les relations entre l'indicateur maximal de l'optimum finalement physiologique, celui de l'espérance de vie, celui de la durée de vie, donc celui de la mortalité, avec un index aussi simple que la température. Et comme on est à peu près certain qu'on va voir des jours de canicule beaucoup plus nombreux dans les années à venir, c'est ce que le GIEC nous dit et qu'il nous confirme à nouveau, la question de la mortalité future est posée, puisqu'à partir de là, on devrait avoir une bascule de ce cycle, ou alors une augmentation et un décalage vers les températures les plus élevées, et donc avoir des cycles de mortalité beaucoup plus importants sur les mois d'été, voire éventuellement une augmentation de la répartition avec des mortalités liées aux événements extrêmes, autant sur le froid de l'hiver que sur le chaud de l'été. C'est toute la question des distributions qui va être posée maintenant. Alors je vois que l'heure avance. Je vais pour ça choisir finalement de skipper un certain nombre de points pour aller finalement conclure sur nos interrelations et vous emmener sur deux fonctions que j'avais choisi d'aborder pour conclure et qui vont nous permettre finalement de voir ce que sont toutes ces relations dans les optima individuels. Et ces optima-là, finalement, sont portés par ce que je viens de vous montrer sur la température et les relations, finalement, d'optimum. Ces optima, on va les avoir, comme je vous l'ai indiqué, en fonction de l'âge. Et donc, vous voyez le phénotype augmenter selon la courbe de Moore, et puis, finalement, s'achever. Vous avez une relation qui, dans une autre dimension de l'espace, avec la température, va montrer, là encore, les fluctuations que je viens de vous indiquer, avec un optimum de survie. C'est 10 degrés pour la performance en marathon, mais pour la réalité, quand on n'a pas besoin de courir 2 heures à 20 km/h, c'est aux alentours de 20-25 degrés en France. C'est un petit peu plus chaud en Espagne, c'est un petit peu plus froid en Suède, bien entendu. Les adaptations se sont faites à ce niveau-là. Mais si vous regardez notre relation au cholestérol, notre relation au sel, notre relation à la tension artérielle, on va avoir à chaque fois des points qui vont, comme je vous le disais tout à l'heure, en fonction de l'énergie qu'on a, en fonction de l'économie dont on dispose, en fonction de la vitamine D, on va avoir toute une série de fonctions qui vont être comme ça réparties avec des fonctions d'optimum, et elles vont toutes donner des aspects qui vont permettre de définir le phénotype optimal au sommet de chacune de ces courbes. Et ce qu'amène la relation autour des interactions de facteur à facteur, ce sont des fronts de Pareto qui vont définir ce que sont les choix optimum d'un organisme par rapport à la contrainte environnementale. Et cet aspect-là, finalement, va nous permettre de regarder évoluer cet aspect. De temps en temps, il perd, et c'est une maladie, par exemple, dont on va essayer de résoudre le problème et donc de ramener cette fonction, alors qu'on va avoir, depuis le 19e siècle, finalement, une croissance progressive de l'ensemble de ces capacités. Et c'est celle-là qui va porter les capacités d'expansion phénotypique que je vous ai montrées, avec toujours la question qui reste posée de ceux, les plus jeunes ou les plus âgés, de ceux qui sont souffrants d'une maladie génétique, comme on l'a vu tout à l'heure, avec des phénotypes les plus aggravés, ceux qui vont être les plus vulnérables par rapport à l'ensemble de ces courbes d'optima. Et dans ce domaine-là, la question est effectivement aussi de voir la relation entre les capacités portée par l'ensemble, et de façon exhaustive, par l'ensemble de la population. Et quand on regarde ce même type de schéma vu de dessus, ce que vous voyez, du 18e au 21e siècle, c'est bien une expansion progressive. Alors, le front de Pareto vu de dessus, une expansion progressive de l'ensemble de la démographie humaine, passant de 1 milliard à 7 milliards et demi, bientôt 9 milliards d'individus, au détriment aussi de la biodiversité, au détriment des espèces autour de nous. Cet aspect, il est très bien mesuré par l'empreinte écologique rapportée par Stiglitz, Sen et Fitoussi, qui monte progressivement et dépasse les capacités, carrying capacity, les capacités de support de la planète. Jusqu'à la question que pose Barnowski autour de la sixième extinction, est-ce qu'elle est enclenchée ou pas, est-ce qu'on en fait partie ou pas. C'est vraiment autour de ça que se définissent les vulnérabilités possibles, puisque dans ce domaine ici donc ceux, comme je vous le disais, qui sont à la base de toutes ces relations d'optimum, qui sont le plus loin de la capacité phénotypique maximale, définissent donc tout cet espace dans lequel les augmentations des risques, que ce soit sur les pathogènes principaux, que ce soit sur les risques extérieurs, on a vu la raison des températures, mais les polluants ne sont pas loin non plus, en fonction de l'âge et des maladies dégénératives liées à l'âge, vont voir des agressions potentielles sur l'ensemble de notre espèce qui peuvent aboutir au cours du XXIe siècle à une réaugmentation des mortalités. Et c'est bien dans ce domaine-là qu'on doit pouvoir comprendre ce que sont les interactions entre, finalement, nos agresseurs principaux et nos capacités de résistance, autant intégrant les capacités d'adaptation que les fonctions physiologiques. Alors, est-ce qu'on saura s'adapter à ça ou est-ce qu'on va nier notre réalité ? C'est bien toute la question maintenant par rapport à ce que sont les limites d'adaptation sur lesquelles je vais conclure. Celles que Rockström nous a indiquées depuis maintenant 5 ans nous montrent que pour les quelques grandes fonctions, changement climatique, acidification des océans, les grands cycles de l'azote et du phosphore, les terres arables, les aérosols, la pollution chimique, on en a deux qui sont largement dépassés maintenant, celui du cycle de l'azote et celui de la biodiversité, si cher à Gilles. Et dans ce domaine-là, Ehrlich a montré que, là encore, on avait des nécessités à comprendre les interactions entre la population, les nous, la consommation, ce qu'on croque, et puis l'environnement, ce qu'on laisse aux autres, ou les autres espèces, et ce qu'on laisse traîner. Et dans ce domaine-là, ce qu'il explique bien, c'est que dans cet article de Science, que les externalités, finalement, ne tendent pas vers un équilibre. Elles sont en train d'être attirées par quelque chose, et c'est bien dans ce contexte de complexité et d'attracteur qu'il faut raisonner cette possibilité évolutive pour l'ensemble de notre espèce. Deuxième question, celle de la perte des régulations de l'environnement lui-même. On voit bien sur la question de la température, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, qu'il existe des moyennes et des extrêmes. Et sur cette augmentation de la moyenne, on va avoir un décalage vers le haut, donc tout sera plus chaud. Oui, plus d'été très chaud, caniculaire. Deuxième question, est-ce qu'on va avoir une augmentation de la variance ? Et donc globalement, est-ce qu'on va aller plus loin de part et d'autre ? Ça, ce serait plus grande variabilité, et donc plus grande vitesse de variation d'un jour à l'autre. C'est peut-être le cas avec les perturbations qu'on voit dans certaines circonstances. Mais si on a les deux en même temps, on va décaler vers le plus chaud, et on va avoir des événements extrêmes dans les deux sens. Et là, on a des capacités de régulation qui sont peut-être plus faibles. Dans ce domaine-là, on a vu les 15 000 décès supplémentaires en 2003, lors de la canicule, événement extrême très chaud en France, mais on a vu aussi qu'il est passé beaucoup plus inaperçu, il y a juste deux ans, en 2012, en cette période de février, 6 000 décès supplémentaires par rapport à la moyenne habituelle, juste sur les 15 jours où il a fait moins 15 en Île-de-France. Et c'est bien ce qu'on constate actuellement sur les températures moyennes et extrêmes, dans lesquelles on voit, sur les mesures qui ont été faites de 58 jusqu'en 2001, qui est publié l'année dernière dans Nature, cette augmentation de la moyenne et de la dispersion qui est valable à la fois en Europe et en Amérique du Nord. Cet impact va même, pour un certain nombre de publications, potentiellement entraîner une augmentation entre l'état présent avec ces tempêtes qui progressivement restent sur la partie nord-atlantique et l'état futur qui va voir s'inverser une partie de courbe ou du moins diminuer les latitudes sur lesquelles vont arriver les impacts nord-atlantique, et donc expliquer une augmentation possible des fréquences des tempêtes, et des tempêtes particulières sur lesquelles on vient de voir la succession, qui n'a pas forcément rapport, mais sur lesquelles il sera important de surveiller cette interrogation-là, puisque au large de Sein, on ne sait pas trop à quelle vitesse, finalement, vont augmenter la taille des vagues et les risques submersifs. Et donc, par rapport à tout ça, ce qui sera important de finaliser, ce sera sur les domaines qui nous seront accessibles, et voici sur les quelques propositions qu'on peut faire. D'abord, celui d'accélérer notre compréhension sur les systèmes non linéaires, sur les interdépendances, je vous en ai montré juste quelques-unes, température, espérance de vie, énergie, démographie, ce sont des points sur lesquels tous ces effets étant liés, il nous faudra comprendre, à l'échelle du dessus, pas seulement à l'échelle individuelle, mais à l'échelle de l'ensemble des données exhaustives de notre espèce, ce qui va provoquer les interactions les unes entre les autres. savoir les échelles de temps aussi, non seulement déterminer le « si » les possibles que, mais quand. Et là, c'est beaucoup plus difficile compte tenu de la grande difficulté de prédictibilité de ces événements, non pas dans la réalité du possible, mais surtout dans l'échéance avec laquelle ils vont tomber. Et puis, prévenir ces bouleversements en faisant autre chose que simplement changer le discours, ce sera un des points majeurs sur lesquels nous essayons, au niveau du Haut Conseil de Santé publique, d'aborder par le biais de l'environnement, des problèmes de gouvernance, de biodiversité, l'ensemble des interactions climatiques, pour avoir l'évaluation possible de tous les impacts sanitaires qui peuvent se faire, et ce sera en particulier le cas, notamment dans un certain nombre des sessions exposées à la COP21, la prochaine conférence sur le climat, en novembre et décembre 2015. Mais de toute façon, je crois que là, à ce stade, le plus important, c'est de réorganiser et de recréer un dialogue nouveau avec le vivant, basé sur le partage, basé sur le don, très clairement, et sans tarder. C'est un point sur lequel on voit un monde qui est certes plein de bruit et de fureur, raconté par un idiot, comme le dit Shakespeare, mais qui est truffé de cohérence. C'est ces cohérences-là que l'on doit pouvoir retrouver, montrer. Il faut accepter individuellement, mais assumer notre responsabilité d'espèce, et ça, ce sera beaucoup plus difficile, et on en voit l'immense difficulté au niveau des instances internationales pour pouvoir ne serait-ce que partager le constat et parler le même langage. La question de poser André Lebeau, c'est est-ce qu'il y a un impératif de pérennité de l'espèce, très largement au-dessus de ce qu'est notre capacité individuelle à répondre à cet instinct de survie qui nous a protégés jusqu'à présent. Et si on a cette capacité-là à comprendre que nous sommes passés par les sommets, il faudra à ce moment-là trouver des positions de contrebas, il faudra trouver les piliers de soutènement au niveau de corniche, les couloirs de viabilité, cher à Bernard Chevassieu-Louis, et seulement après, peut-être, nous pourrons préparer le bivouac. Mais comme le disait Albert Camus à nouveau pour conclure, cet univers désormais sans maître ne lui paraît ni futile ni stérile. La lutte éternelle vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme, et chacun des grains de sa pierre à lui seul forme un monde, et il faut imaginer Sisyphe heureux. C'est sur ce point-là que je voudrais terminer, en remerciant l'ensemble de ceux qui me rendent ce grand bonheur au niveau de l'IRMES, Julien Lantero, Geoffroy Berthelot, Andy Marc, Julien Schipman, Adrien Sedeau, François Desgors, Philippe Noiret, Hélène Boucher aussi, élément essentiel de notre groupe, et vous remercier de votre attention.